efficace dans la discussion. Je suggère de prendre les thèmes un par un et de montrer à tous les gens que tout ce qui est dit sur temps partiel, comme je le faisais dans la CNI, n'est faux, que tout est mauvais. Un par un. Parce que c'est le degré de conviction le plus efficace. On a un travail de conviction pour des millions de salariés autour de nous à faire. Et donc, il ne faut pas démarrer comme ça, alors qu'on peut étayer comme ça. Il faut le faire pas à pas. Je le dis ensuite, parce qu'il y a un petit truc. Moi, je suggère. Je n'ai pas d'ennemis parmi les syndicalistes, et je n'ai pas d'ennemis parmi les syndicats. D'autant que dans tous les syndicats, y compris ceux consignés, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord pour que leur direction est signée. Et si nous voulons les avoir avec nous dans la rue, etc., ne commençons pas par les mettre en cause, ni aucun parti de gauche. Parce que dans tous les partis de gauche également, il y a des gens qui disent « c'est pas possible de faire ça ». Et donc il faut rassembler. Quand on veut rassembler, on ne met pas de barrière à l'entrée. On commence par dire « ensemble, 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 ensemble ». Et l'argumentation de terrain sur chacun des articles de l'ANI est 10 000 fois plus forte que tout le reste. Vous ferez, face à l'acide, vous mettrez de la protection. Et on fera du béton et on reconstruira. Mais c'est de cette façon-là, je crois, qu'il faut prendre les choses. Parce que si vous commencez par dire « ah bah, ceux qui sont là-haut, c'est toujours une habitude. La Révolution française, les gens ont commencé à aller chercher du pain auprès de Marie-Antoinette. Cette reine a été métasse. Elle leur a dit « si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche ». Alors ils lui ont coupé la tête. Mais si vous étiez parti de Paris en disant « faut aller couper la tête à Marie-Antoinette », les gens ne seraient pas allés. Ils y vont pour du pain. Et c'est en n'ayant pas de pain que leur conscience augmente et qu'ils se posent d'autres problèmes. C'est toujours comme ça. Si vous dites « je veux d'abord couper la tête de ceux qu'on fait là », vous ne gagnerez pas sur la ligne. Si vous dites « je veux gagner sur la ligne », et voilà pourquoi, 27 articles, 54 reculs, alors on a toutes les chances de gagner. Et à ce moment-là, on verra bien ce qui arrivera de ceux qui ont voulu faire ce mauvais coup. C'est la méthode que je préconise. Ensuite, après, sur le droit du licenciement, le droit du licenciement, il y a quelque chose de particulier. Avant, la loi Fillon avait commencé le 4 mai 2004 à permettre des accords dérogatoires d'entreprise, dans les entreprises. C'était un renversement de ce qu'on appelle la hiérarchie des sources de droit. C'est-à-dire qu'avant, la loi encadrait des accords nationaux interprofessionnels, des accords de branche et des accords d'entreprise. Fillon, le 4 mai 2004, a permis que des accords d'entreprise dérogent aux accords de branche, qui dérogent aux accords interprofessionnels, qui dérogent à la loi quand celle-ci le prévoit. Donc en fait, vous sapez ce qu'on appelle l'ordre public social par le bas. C'est comme un sucre, ce qui vous reste un peu de café dans le fond de la tasse. Vous le mettez, il va fondre par le bas, vous ne le voyez pas, les arêtes sont encore blanches en haut, mais il est en train de fondre. Et les accords dérogatoires d'entreprise, c'est-à-dire en fait des clauses de faveur, ont cet effet, le sap sur l'ordre public social. Mais quand Fillon avait fait ça, il y avait toujours la possibilité d'invoquer son contrat individuellement, le contrat en usage, et de dire « moi, je ne veux pas subir l'accord dérogatoire qui vient d'être signé dans mon entreprise ». Ça, c'était possible. Vous étiez licencié, probablement, mais encore fallait-il que l'employeur dise « je suis obligé dans ce cas-là de le licencier, j'ai un motif économique pour le licencier, et qu'il vous respecte vos droits ». Tandis que dans l'ANI, là, vous ne pouvez plus invoquer votre contrat de travail dans deux circonstances. Quand il y a des mutations internes suite à un accord collectif, là, on peut vous licencier, dit l'ANI, pour motif personnel. Et c'est une cause réelle et sérieuse que de refuser l'accord sur les mutations. Et le deuxième cas, c'est quand vous avez l'accord de maintien de l'emploi, où on vous dit on va baisser le salaire, on va faire varier les horaires, vous n'avez pas la possibilité de refuser, vous serez alors licencié pour des raisons économiques, mais sans bénéficier de plan social. C'est-à-dire vous aurez juste vos droits stricts prévus par la convention ou par le code du travail correspondant à votre ancienneté ou à la situation qui est la vôtre avec le préavis, mais rien de plus. Et ça, c'est les deux cas où c'est un vrai recul. C'est-à-dire qu'individuellement, vous ne pouvez plus même réclamer votre contrat. Alors ensuite, après, on dit les prud'hommes. Alors les prud'hommes, danger pour les prud'hommes. Il faut se battre, je suggère, vigoureusement pour qu'il y ait des élections. Parce que s'ils suppriment les élections, ils parlent de grands électeurs, de choses comme ça, etc. Il paraît qu'il n'y a pas de participation. Mais si, il y a de la participation. Mais si, les syndicats ont 4 500 000 voix. Et alors, moi, je propose une chose, c'est de faire que le jour des prud'hommes soit un jour férié. Une fois tous les 5 ans. Pour que les gens viennent voter. Qu'ils ne soient pas obligés de demander à leur employeur, dans les petites entreprises de moins de 10, je peux aller voter, monsieur. Vous ne retirez pas sur mon salaire. Tu parles, tu ne retires pas sur le salaire. Et donc, un jour férié, vous votez, tout le monde viendra voter, vous aurez une campagne autour de ça. Il faut défendre l'élection prud'homme, parce que s'il n'y a pas l'élection prud'homme, ils mettront plus les prud'hommes à bas plus facilement après, bien sûr. Ils ont déjà réduit les crédits d'heures pour les conseillers prud'hommes, la formation pour les conseillers prud'hommes. Les patrons bloquent tout ce qu'ils peuvent, ils renvoient systématiquement à des juges départiteurs, ils empêchent qu'il y ait des négociations et des accords corrects dans l'intérêt des salariés. Et pourtant, les prud'hommes, c'est la plus belle justice qu'on puisse avoir au travail. Sans compter d'une chose, c'est que les immigrés votent pour les prud'hommes. Ils votent pour une élection nationale. C'est un exemple à prendre, c'est même pas une élection locale. Ils votent pour élire les juges de la République. Faites valoir aussi ce droit qu'il y ait des élections, que tout le monde puisse voter, que c'est les salariés qui désignent les juges prud'hommes. Et il faut, et en face dans les prud'hommes, le MEDEF c'est un groupuscule. Mais même pas 11% des voix parmi les voix patronales. Alors que c'est lui qui prétend diriger tout. Défendez les élections prud'hommes, défendez les prud'hommes, ils sont attaqués comme le reste. Mais il n'y a pas que le reste, l'inspection du travail, merci de l'avoir dit. Alors, ce qui se passe, une inspection, c'est une section, c'est un inspecteur pour l'instant, deux contrôleurs, deux secrétaires. Et elle a en moyenne 30 000 salariés et 3 000 entreprises sur tout l'ensemble du territoire. Et donc, vous êtes, quand vous êtes inspecteur et contrôleur, vous êtes sous la pression des salariés au sens où il y a des permanences. Les salariés viennent se plaindre, vous les écoutez, vous allez dans l'entreprise, c'est vous qui décidez où vous y allez, quand vous y allez, à l'heure que vous y allez, et ce que vous y faites. C'est l'action en opportunité, donc en indépendance.